à la une de l'actualité dans cette édition du journal. Situation sécuritaire tendue à Walungu, un bombardement nocturne endommage une partie de l'EP2 Walungu et les éclats des bombes ont détruit les cultures des champs dans cette partie du Sud Kivu. Dans la nuit de jeudi à ce vendredi, les activités scolaires ont été paralysées suite à cette situation. Au sommaire également, l'annonce de la reprise des activités de la Bralima Bukavu permettra à plusieurs personnes de retrouver leur emploi et va booster l'économie locale, estime l'analyste financier Ide Bakulu, au lendemain de l'annonce de la cession de la brasserie de Bukavu à une société des droits mauriciens. Une annonce qui devrait être accueillie à sa juste valeur. On en parle dans cette édition du journal. Et en sport, Coupe Interclub de la CAF débute ce week-end de la phase de groupe avec en Ligue des Champions le déplacement du FC Saint-Éloi-Lupopo en Afrique du Sud pour affronter Mamelodi Sundowns, alors qu'en Coupe de la Confédération, Azam de Jean-Florent Ibenge sera à Kinshasa pour affronter Maniema Union. Voilà tout pour les menus de l'actualité. Merci de nous faire confiance. Émile Mouindo assure la mise en onde. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue.
Ce journal vous est présenté par Héritier Boroto.
Et l'insécurité pour commencer cette édition du journal. Des combats sont rapportés depuis jeudi dernier dans le groupement des Rubimbi en territoire de Walungu. Ils opposent les troupes de l'AFC M23 aux combattants Wazalendo, précisément au site minier de Karembu où sont situés des gisements aurifères à la limite avec les territoires de Mwenga. Sur place, des tirs ont été entendus le long de la journée et des renforts des troupes de l'AFC M23 ont été visibles, précise notre source. Suite aux affrontements, les Chinois qui exploitent l'or dans ces sites miniers ont quitté les lieux pour se mettre à l'abri du danger. Cette situation a perturbé les activités pendant la journée de ce vendredi dans cette partie du Sud qui vous conclut notre source. Et je l'annonce au sommaire de cette édition du journal. Les activités scolaires ont été totalement paralysées ce vendredi 21 novembre 2025 à l'EP2 Walungu après un bombardement nocturne qui a semé la panique au sein de la communauté éducative. Vers minuit, une explosion d'origine inconnue a endommagé la toiture des deux salles de classe de cette école, surprenant élèves et enseignants à l'heure arrivée le matin. Selon les témoignages recueillis sur place, les élèves déjà gagnés par la peur ont été rapidement renvoyés chez eux par la direction compte tenu des stress qui affectaient aussi bien les enfants que les personnels. L'école accueille actuellement 1150 écoliers dont 576 filles et 574 garçons. Non loin de là, dans les villages Kabikwinja, des éclats de bombes sont également tombés sur plusieurs maisons d'habitation. L'un d'eux a perforé la dalle d'une maison en construction avant de finir sa course dans un champ où il a détruit des cultures. Les habitants racontent avoir été pris de panique, ne sachant s'il fallait fuir ou rester chez eux. Ce vendredi matin, la situation est restée calme, mais l'inquiétude demeure dans les villages touchés comme dans la communauté scolaire, en attente d'éclaircissement sur l'origine de cette explosion. Et la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO, a condamné vendredi les attaques menées par les groupes armés Force démocratique alliés ADF entre les 13 et les 19 novembre dans les territoires de Lubero au nord Kivu, qui ont fait 89 morts. Selon les informations recueillies par la mission, ces attaques ont touché plusieurs localités du secteur des Bapéré et de la chefferie des Baswaga, avec un bilan comprenant au moins 20 femmes tuées et un nombre encore indéterminé d'enfants parmi les victimes. À Buambwe, à 60 km à l'ouest de Lubero, 17 civils, dont des femmes hospitalisées dans une maternité, ont été tués dans un centre de santé catholique où 4 pavillons ont été incendiés. D'autres localités, notamment Mabiango, Tunarudi, Sambalisa, Toucha et Boutsili ont été ciblés par des pillages des médicaments, des enlèvements, des incendies des maisons et des destructions des biens dans une zone déjà marquée par une situation humanitaire extrêmement précaire, selon la MONUSCO. La MONUSCO a réaffirmé son engagement aux côtés des autorités congolaises et a rappelé ses opérations conjointes avec les forces armées de la RDC FARDC contre les ADF, notamment à travers les opérations Nyondo, Safisha et Midnight Guard. La mission exhorte par ailleurs les autorités à ouvrir sans délai des enquêtes indépendantes pour identifier les responsables de ces massacres. Et alors que sur le terrain, les résultats restent peu visibles en matière de d'escalade entre Kinshasa et Kigali, mais aussi entre Kinshasa et l'AFC M23, les processus de médiation américaine semblent, quant à lui, suivre son calendrier. Les différentes parties prenantes engagées dans les processus de Washington sous la facilitation des États-Unis d'Amérique respectent pour l'instant les échéances prévues lors d'une nouvelle réunion du mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité tenue tenir les 19 et 20 novembre 2025 à Washington DC en présence des représentants de la RDC, du Rwanda, des États-Unis, de l'État du Qatar, de la République du Togo, médiateur de l'Union africaine, ainsi que de la Commission de l'Union africaine. Les participants ont évalué les niveaux de mise en œuvre de l'accord de Washington signé il y a près de 4 mois, soit le 27 juin 2025. Au cours de la même réunion, les participants ont examiné les progrès accomplis dans la première phase de l'OPORD, notamment les mises à jour concernant les partages des renseignements et les opérations d'information menées par la RDC pour sensibiliser les communautés accessibles et inciter les membres des FDLR à déposer les armes. Les parties ont engagé des discussions ouvertes afin d'examiner les difficultés persistantes et d'identifier les lacunes et les opportunités pour assurer le succès de la première phase. Les membres ont également entamé les discussions sur la deuxième phase, notamment les actions visant à neutraliser les FDLR et à lever les mesures défensives du Rwanda. Et en dépit de son statut de médiateur désigné par l'Union africaine, le Togo reste moins visible dans la résolution de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC depuis l'entrée en jeu des États-Unis d'Amérique et de l'État du Qatar. Au-delà de sa participation aux réunions des mécanismes conjoints de coordination en matière de sécurité sous l'égide de Washington, le Togo, dirigé par Faure Gnassingbé, entend désormais faire bouger les lignes. Lomé prévoit d'organiser le 17 janvier 2026 une réunion de haut niveau consacrée à la cohérence et à la consolidation du processus de paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Bien avant cette annonce, et en étroite coordination avec le Togo, médiateur de l'Union africaine pour la région des Grands Lacs, la France a organisé le 30 octobre dernier à Paris une conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. Cette conférence, qui a permis de mobiliser plus de 1,5 milliard d'euros en faveur des populations les plus vulnérables, avait pour principal objectif d'inciter la communauté internationale à répondre à l'urgence humanitaire dans l'est de la RDC et dans l'ensemble de la région. Les organisations engagées dans la défense des droits de l'enfant alertent sur des violations qui compromettent la sécurité, la santé mentale et l'avenir des enfants en RDC et exigent la restauration des services essentiels dans les zones touchées ainsi que l'accompagnement psychosocial pour les enfants traumatisés. Message lancé par les réseaux universels des amis et défenseurs des droits de l'enfant RUD en sigle dans un document rendu public et consulté par Radio Mandela ce vendredi 21 novembre 2025 au Meur Mudekereza.
Dans ce document, Pacifique Nyakasani, défenseur des droits humains et expert en droits de l'enfant, on dit que la situation est devenue critique, surtout dans les zones en proie aux conflits armés et aux catastrophes récurrentes. Dans l'est de la RDC par exemple, les affrontements, les déplacements massifs et les violences de tout genre exposent les plus jeunes à des dangers constants. Beaucoup sont blessés, séparés de leur famille, privés d'école ou confrontés aux violences sexuelles. À cette instabilité s'ajoutent des urgences silencieuses liées au changement climatique. Sécheresse, inondations, glissements des terrains et vagues de chaleur bouleversent le quotidien des familles et aggravent les risques pour les enfants, indiquent ces documents. Pacifique Nyakasani précise en outre que plusieurs menaces sapent les droits fondamentaux des enfants, dont le manque d'eau potable, la malnutrition, les maladies et les déplacements forcés. Face à cette accumulation des crises, les réseaux universels des amis et défenseurs des droits de l'enfant appellent à une mobilisation immédiate. Ils exigent également l'intégration systématique de leurs droits dans toutes les stratégies de paix et de prévention. Cette organisation rappelle que chaque enfant a droit à la vie, à l'éducation, aux soins et à un environnement sans violence. Elle demande instamment aux parties au conflit de respecter ses droits et de garantir une protection totale aux enfants. Aujourd'hui parmi les premières victimes des crises qui traversent le pays. Précisons que ces documents ont été publiés à l'occasion de la Journée mondiale pour les droits des enfants, célébrée le 20 novembre de chaque année. Cette année, les thèmes invitent le monde à protéger les enfants contre les urgences quand tout bascule.
Merci Omer Mudekereza et mesdames et messieurs, vous suivez Radio Mandela à Bukavu et dans les territoires. Dans un court instant, la suite de cette édition du journal.
Chaque jour, elle se mobilise pour offrir à ses auditeurs et auditrices des informations à temps réel. Notre principale détermination, c'est de vous servir. Nous, c'est la Radio Mandela. Plus et mieux pour et avec ses auditeurs.
Changeons de chapitre à présent. La brasserie de Bukavu appartenant au brasseur Heineken est cédée à une société dénommée Synergy Venture Holding, une société mauricienne détenue par un groupe d'entrepreneurs et d'opérateurs de la région. Heineken l'a officialisé via un communiqué publié sur son site internet. Cette firme est d'origine néerlandaise, dit avoir cédé la brasserie de Bukavu pour la somme symbolique d'un euro. La cession fait suite à la perte des contrôles opérationnels de la brasserie et répond à un objectif humanitaire visant à préserver les emplois et les moyens des substances. Elle vise à maintenir les services essentiels à la communauté et à prévenir toute utilisation abusive des installations dans un contexte sécuritaire instable, indique Heineken dans ses communiqués. À l'issue de cette vente, le nouvel acquéreur assumera l'entière responsabilité de l'exploitation de la brasserie, de la sécurité et du bien-être des employés, ainsi que du respect de toutes les obligations fiscales envers le gouvernement de la RDC, ajoute Heineken. La firme dit conserver une option de rachat exerçable pendant 3 ans, sous réserve de la viabilité de l'exploitation. Il s'y est précisé qu'au moment de l'arrivée de la FC M23 dans la ville de Bukavu au mois de février 2025, la Bralima avait connu un pillage et son unité de production avait subi d'importants dommages. Dans la foulée, Heineken avait annoncé la fermeture de sa brasserie de Bukavu. Et l'annonce de la reprise des activités de la brasserie de Bukavu permettra à plusieurs personnes de retrouver leur emploi et va booster l'économie locale. Cette réaction est de l'analyste financier Ide Bakoulou au lendemain de l'annonce de la cession de la brasserie de Bukavu à une société des droits mauriciens. Il pense qu'au travers cette mesure, toutes les économies qui dépendaient jadis de la Bralima, notamment les entreprises de sous-traitance dans les domaines du personnel, du transport et des fournitures, s'y référant la santé. Tel est le cas aussi pour les sociétés comme la Régie des Hommes et la SNEL qui bénéficiaient des fonds considérables chaque mois venant de la Bralima. Pour lui, cette mesure va augmenter aussi la consommation des produits brassicoles locaux auxquels le public s'était déjà habitué, avec pour conséquence directe la baisse de la consommation des produits de l'extérieur. Ide Bakoulou salue cette mesure prise par Heineken et demande aux habitants de Bukavu d'accueillir favorablement la nouvelle société qui prendra les commandes de la brasserie de Bukavu.
Les gens sont allés au chômage. Certes, la Bralima continue à payer ses agents, mais là, ce sont ses agents à elle propre. Mais tous les autres autour, notamment tous ces journaliers qui étaient embauchés par les sous-traitants de la Bralima, tous étaient au chômage. Non seulement cela, il y a toutes ces sociétés de transport, notamment le transport lacustre, tous ces camions qui amenaient les histoires pour la Bralima, toute l'économie qui était organisée autour de la Bralima, notamment les dépôts relais et consorts, tout cela va maintenant reprendre. Selon les informations que nous avons, cette société va brasser les mêmes bières, notamment la bière Primus, la bière Médic, toutes ces bières que nous connaissions ici et que nous allons encore revoir. Je sais que les gens de Bukavu aiment leur bière, la bière locale ici. Ce qui va jouer beaucoup sur l'importation qu'on a connue ici de la bière. Ça veut dire que la Bralima va reprendre son marché. Je suis sûr que le marché étranger de la bière va beaucoup diminuer, plus de 80%. Nous sommes contents aussi que selon les documents que nous avons consultés, la Bralima est exigée que tous les travailleurs reprennent leur travail avec les mêmes salaires. Ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Mais aussi, ce qu'ils perçoivent est redistribué dans toute l'économie de la province et c'est une bonne chose.
Et les motocyclistes de Bukavu demandent au maire de revoir sa décision leur interdisant de traverser les ronds-points où ils stationnaient. Pour eux, cette décision ne leur facilite pas les travaux car ils doivent passer par certains ronds-points pour atteindre les tronçons secondaires, considérant qu'ils n'ont plus le droit de rouler sur le boulevard Patrice Emery Lumumba. Hélène Boudjiriri.
Il donne l'exemple de la place de l'Indépendance où les policiers refusent toute présence d'une moto. Pourtant, cet endroit est un croisement des routes qui donne accès aux communes d'Ibanda, Kadutu et Bagira. Ces derniers rappellent qu'il est impératif de passer par la place de l'Indépendance pour quelqu'un en provenance de Bagira, d'où leur incompréhension face à la décision d'interdire la traversée par moto dans tous les ronds-points. À cela s'ajoutent les tracas série dont ils sont victimes de la part de certaines personnes qui se disent être agents de la mairie. Les motocyclistes se disent marginalisés car subissant une oppression tant sur les boulevards que même dans les routes secondaires. À cet effet, ils appellent les maires à revoir cette décision, mais aussi interpeller les agents véreux à la base des tracasseries pour leur permettre d'exercer dans la quiétude en vue de nourrir leur famille. L'un des motocyclistes en parle.
On a quoi déséquilibré par rapport à une situation
Cette situation nous déséquilibre. Ce qui est pire, c'est le fait de nous interdire de traverser le rond-point pour atteindre certains tronçons. Que ce soit à Nyawera, Nguba ou à la place de l'Indépendance, il nous est refusé tout accès. Ils disent qu'un motard ne peut pas passer par la place de l'Indépendance pour se rendre à l'hôpital général et vice-versa. Cette situation peut faire à ce que les motards abandonnent leur travail et se retrouvent dans la rue. D'où notre plaidoyer aux autorités à revoir cette décision.
Tunalilia viongozi wa revoir ile mesure yenye bali tutilia.
En réaction, le maire de Bukavu promet d'organiser une rencontre avec toutes les parties concernées pour trouver une issue tant favorable à l'ordre public et aux intérêts des motocyclistes.
Et le collège des étudiants de l'Institut supérieur pédagogique ISP de Kamituga dénonce une tentative d'expoliation et la vente présumée d'une partie de leur concession située sur la colline universitaire des Mero. L'alerte est du collège d'étudiants à travers les porte-parole des étudiants Muganza Lutal et Christophe. Celui-ci indique que cette manœuvre est orchestrée par des individus aux intentions douteuses, cherchant à s'approprier illégalement ces biens publics destinés à la formation intellectuelle de la jeunesse locale. Non seulement une partie de la concession fait l'objet de convoitises, mais aussi certains équipements appartenant à l'institution auraient également été volés, ajoute notre source. Ainsi, le collège des étudiants de l'ISP Kamituga appelle les autorités compétentes à prendre des mesures urgentes pour stopper cette dérive, craignant des tensions si rien n'est fait. En outre, Muganza Lutale prévient toute personne qui compte acheter ou qui a déjà versé de l'argent pour acquérir cette parcelle qu'elle perdra son argent car la concession appartient à l'État. Il s'exprime ici au micro de notre correspondant à Kamituga, Jean Nondo Mukambilwa.
Ça fait longtemps, messieurs les journalistes, que les sages de la ville, ils ont bien réparti notre concession. Une partie est réservée à l'Université libre de Mangayeleme et l'autre partie est réservée à l'Institut supérieur pédagogique de Kamituga. Mais chaque fois, c'est la concession de l'ISP Kamituga qui est envahie, qui est menacée par des personnes de mauvaise volonté. Nous mettons en garde toutes celles ou tout celui qui a tendance ou qui veut ou qui a déjà acheté ou vendu notre concession. Choses étonnantes que nous déplorons, nous fustigeons le fait de voir, il y a des populations qui volent, qui détruisent les biens de l'ISP se trouvant à la colline universitaire des mers. Quand on plante des arbres, il y a des gens de mauvaise volonté qui viennent déraciner, qui veulent voler nos arbres plantés là-bas. Nous demandons au maire de la ville et à toutes les autorités de sécuriser cette partie-là. Car c'est pour l'intérêt de l'élite intellectuelle des Mwenga et des Kamituga et voire même de toute la province de Sud-Kivu.
Et d'un territoire à un autre, avant la deuxième partie de cette édition du journal, les personnalités issues du territoire de Walungu sont appelées à soutenir la synergie des étudiants de Walungu réunis au sein de la CIWA. Cet appui peut être d'ordre matériel, financier et même moral pour permettre à cette structure d'émerger et surmonter les défis auxquels elle fait face. L'appel a été lancé au cours d'une journée de réflexion organisée à Bukavu ce vendredi 21 novembre par la CIWA, témoin de l'événement Alain Kabika.
L'orateur du jour et coordonnateur honoraire de la synergie des étudiants de Walungu CIWA, maître Jean-Claude Ziali Roy, déplore de constater que cette structure est devenue l'ombre d'elle-même, contrairement aux jours passés. Cette situation se manifeste par les manques d'appui pour l'organisation des activités qui visent le développement du territoire de Walungu. L'orateur veut voir la CIWA se réorganiser, approcher les sages et préconiser des rencontres par axe afin de redonner à la CIWA ses lettres de noblesse. Maître Jean-Claude Ziali Roy.
Nous avons bien évidemment conclu en condamnant les aînés, nombreux d'entre eux, qui n'accompagnent pas les structures des jeunes. Walungu regorge un certain nombre de personnages. Au lieu d'accompagner de façon désintéressée la CIWA, voulait en faire une béquille politique. Déjà que c'est une coordination, il faut que chaque comité puisse d'abord travailler. Il faut que les étudiants se rencontrent entre eux, qui se parlent. J'en appelle à la volonté des aînés, que nous sommes et d'autres qui sont éparpillés ça et là. Qu'ils accompagnent la CIWA, c'est l'association de leurs jeunes.
Pour sa part, l'école coordonnateur national de la CIWA Aganze Murabazi Arsène annonce que sa structure compte mettre sur pied des activités génératrices des revenus qui pourront permettre à cette dernière de subvenir à certains de ses besoins. Ces derniers rappellent aux jeunes qu'ils ne doivent pas être utiles seulement lors des échéances électorales au pays, d'où l'appel à l'unité et à l'engagement de chacun afin d'aboutir à des grandes réalisations. Aganze Murabazi Arsène.
Lorsque nous sommes forts, nous pouvons arriver à faire grand chose et de voir aussi des perspectives d'avenir de notre structure et le développement aussi de notre territoire de Walungu. Nous avons sensibilisé tous les membres de la CIWA et même les étudiants originaires de Walungu qui ne prennent pas part aux activités, qu'ils commencent à prendre part. Pourquoi? Parce que nous avons initié certaines activités que nous allons faire bientôt. Nous allons ouvrir certaines activités génératrices de revenus dans la ville de Bukavu et ça sera pour les étudiants qui prennent part aux activités organisées par la CIWA.
L'activité s'est tenue dans la salle des réunions de la société Connected Internet and Telecommunication Network, Internet, situé en diagonale de la cathédrale Notre-Dame de la Paix en commune d'Ibanda, en présence de plusieurs invités. C'était sous le thème « Défis et perspectives d'avenir de la CEOA ».
Merci Alain Kabika et merci de nous suivre en direct en Afrique du Sud sur le www.radiomandela.org. À présent, nous parlons sport.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maeneleu. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
La phase des groupes de compétitions africaines interclubs de la CAF démarre ce week-end en Ligue des Champions. Le FC Saint-Éloi Lupopo sera reçu en Afrique du Sud par Mamelodi Sundowns. Après plusieurs années sans disputer la Ligue des Champions, Lupopo a renoué avec la compétition cette saison. Les Lumpa ont réalisé leur objectif d'obtenir une qualification pour la phase des groupes et ils vont jouer sans pression. L'appétit venant en mangeant, dit-on, l'équipe de Lumbashi démarre la phase des groupes avec l'intention de terminer parmi les deux premiers pour poursuivre la compétition. Cette rencontre démarre à partir des 15h, heure de Bukavu. En revanche, en Coupe de la Confédération, l'AS Maniema Union reçoit à Kinshasa Azam FC de la Tanzanie, une équipe entraînée par le technicien congolais Jean-Florent Ibengue. Dans les rangs de l'équipe tanzanienne, on retrouve aussi un ancien joueur de Maniema Union, à savoir Jefté Kitambala. Ce match démarre à partir des 15h, heure de Bukavu. Il se dispute au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa.
La revue de presse. Radio Maïdélu capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
Et avec vous, Hélène Boudjiriri, l'arrivée de l'émir du Qatar et la tenue de l'activité des fins d'année dit marché de Noël à Bukavu font partie des sujets commentés par la presse vendredi 21 novembre 2025.